rencontre.
À la rencontre.
À la rencontre.
De la biodiversité. De la biodiversité. De la biodiversité.
Michael Monvoisin, correspondant environnement pour l'Agence bretonne de l'Office national des forêts.
Denis Robert, je travaille à l'Office français de la biodiversité.
Et Sébastien Gervais, chargé d'études à la LPO Bretagne.
Épisode 4, agir.
Donc là, on parle beaucoup des aménagements qui peuvent être faits chacun à son échelle, donc soit dans son appartement, sur son balcon ou dans son jardin. Mais il y a aussi des gestes au quotidien qui peuvent paraître banals, mais que beaucoup ne font pas. Si on peut parler un petit peu de ces gestes-là aussi.
Moi, à mon échelon, je ne peux pas grand-chose, c'est faux, c'est complètement faux. J'achète plus de bouteilles d'eau depuis 2 ans. Je n'avais pas imaginé que je consommais autant, j'achetais autant de bouteilles en plastique en une année. Je pense que c'est le consommateur qui, en venant dans des marchés comme ça, ne vont plus dans les grandes surfaces. Et du coup, c'est le consommateur qui a le pouvoir, complètement, et de voter et de consommer intelligemment. Et c'est lui qui a, en fait, c'est ça la réalité.
Oui, c'est évident que le consommateur a un rôle essentiel, mais pour que ce soit effectif, il faut qu'il y ait du lien social, justement. Et on est trop dans l'individualisme, et changer, ça c'est des idées évidentes, on peut pas les contredire. Que le citoyen a un pouvoir énorme, le consommateur a un pouvoir énorme. Sauf que dans la réalité, on se rend compte que c'est pas si simple que ça.
J'aime bien la notion de consommateur. Je trouve, parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu dynamique. Et tu parlais de ça tout de suite sur ces choix d'achat, sur la nourriture, sur la qualité de l'alimentation, mais aussi sur la qualité des produits ménagers. Il y a plein de produits un peu alternatifs. Ça se développe beaucoup. Il faut tenter, il faut essayer. Ça peut être quelquefois un peu contraignant au début. C'est des habitudes des fois à changer, mais globalement, ça s'intègre assez vite. Moi, j'ai fonctionné chez moi pendant des années aux toilettes sèches. Ça rebutait pas. J'avais des toilettes classiques et des toilettes sèches. Quand on avait des invités, je leur montrais les deux. 3 personnes sur 4 tentaient les toilettes sèches.
T'as de la chance, parce que moi, j'avais les toilettes sèches, mais j'avais que les toilettes sèches.
Ouais, moi, j'ai le choix. Mais
il y a des gens, ils se retenaient.
Ouais. Mais ça marche quand même. Ça éduque, en fait. Moi, qu'ils y aillent pas, je m'en fiche. Mais ce qui était intéressant, c'était de leur montrer qu'il y avait une alternative. Et certains essayaient et revenaient en disant, finalement, ça va. Oui, ça va. Ça dépend qui est passé avant, peut-être. Mais globalement, ça va.
Moi, je sais que mes enfants n'avaient pas connu de chasse d'eau avant l'âge de 13, 14 ans.
Des repas sans viande, on en a parlé tout à l'heure. Un repas sans viande, c'est possible. C'est possible. Un peu.
Une des difficultés aussi, à mon sens, c'est qu'on est dans un monde social où... Une partie du sentiment d'exister passe actuellement au travers des objets qu'on possède. La publicité utilise ça à outrance, mais en gros, pour exister, il faut avoir le dernier téléphone, il faut avoir un SUV, il faut avoir... les exemples sont multipliables à l'infini. Et que, je crois que c'est toi qui en parlais, Sébastien, tout à l'heure, mais dans des périodes... un peu de sentiment d'insécurité, d'incertitude sur l'avenir comme on vit actuellement. Une des difficultés, c'est que on peut être tenté de raccrocher ce sentiment de vide en le comblant par de la consommation. Et qu'il y a sûrement un enjeu là à développer un autre modèle pour combler ce sentiment d'insécurité, de vide, justement, plus par du lien social, peut-être. On disait par des approches poétiques d'aller se promener en nature, mais c'est un acte militant.
Il y a un besoin de consommer, on voit bien chez les gens. Tout à l'heure, on parlait du message d'espoir qu'on est au premier confinement. Là, on a commencé à faire le lien entre la crise sanitaire et la biodiversité. Moi aussi, j'étais content, mais qu'est-ce que j'ai déchanté quand on a réouvert en région parisienne. Le premier McDo qui a réouvert, il y a eu 3 heures de queue pour aller chercher un Big Mac ou une boîte de nuggets. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'était quoi l'urgence?
C'est désespérant.
Ah ouais, ça m'a
quand
tué.
Quand on voit ça, on se dit, c'est mort.
faut garder l'espoir, mais c'est vrai que j'y ai pensé.
Et à l'opposé, vous connaissez Jean-Marie Cochet? Il y a quelques mois, il y a un an ou deux, on le voyait beaucoup à la télévision parce qu'il avait complètement changé de vie. Il se déplaçait en calèche, il vivait en autarcie, il cultivait son jardin. Et c'est vrai que sur les plateaux télé, on se foutait un peu de sa gueule. Je pense qu'il a dû bien rigoler quand le Covid est arrivé. Parce que finalement, ça n'a rien changé à son quotidien du coup. Il a continué à cultiver son jardin comme il le faisait avant. Il se déplaçait une fois par semaine pour aller faire des courses. Voilà. Le confinement, je pense pas que ça l'ait gêné. Je dis pas que c'est extrême ce qu'il a fait. Je dis pas que c'est ce qu'il faut qu'on fasse tous. Mais en tout cas, alors qu'il était raillé, je pense que maintenant, si on montrait à nouveau ces émissions-là, on se dirait bah finalement, il est peut-être pas si tort que ça.
Mais là, j'aime pas trop. Là, c'est vrai qu'il faut savoir piocher, en fait, là-dedans. Et ce qui m'énerve, c'est que depuis 10 ans, les émissions qui tournent autour de l'environnement, pas que la biodiversité, c'est tout le temps ça. C'est une caricature un peu d'écolo, voilà, des gens qui font leur dentifrice, qui ont leur propre éolienne, ouais, qui sont végétariens, qui roulent cul en vélo. Alors, on a tendance à caricaturer ça. Et aujourd'hui.
C'est chiant, en fait.
Bah oui, c'est pénible parce que c'est hyper culpabilisant. Parce que nous, voilà, on est censé porter un peu ces messages-là. Et, dès qu'on s'autorise de boire un coca ou de manger un steak.
N'est-ce pas?
On nous caricature, on dit, bon, alors, t'es pas crédible, t'es allé en rat, t'as pris l'avion pour aller en vacances. Parce que c'est de honte, voilà. Mais je pense qu'il y a une question d'équilibre. On ne sait pas tout blanc ou tout noir, quoi. Je pense que c'est important que chacun fasse des efforts, mais il faut arrêter de chercher des prétextes chez ceux qui font de plus en plus d'efforts pour dire, pour essayer de les discréditer. Effectivement, il y a des choix de vie. Monsieur Cochet, c'est son choix. C'est sans doute une grosse, pas pour lui, c'est pas une grosse contrainte, mais pour beaucoup de personnes, vivre comme ça, ce serait sans doute inconcevable. Mais en attendant, il y a plein de situations intermédiaires et qui seront aussi efficaces et qui porteront des messages et qui permettront, en plus avec un peu de recul, je pense, d'améliorer sa qualité de vie. Hein, parce que courir toujours après le progrès et faire 3 heures la queue pour des nuggets qui vont rester 3 heures sur l'estomac, moi je suis désolé, mais j'appelle pas ça le progrès.
Hein. La difficulté de la caricature, c'est qu'elle crée un fossé qui devient difficilement franchissable pour la plupart d'entre nous, en fait. Mmh. Et que montrer des exemples, des petits exemples. Il y a la voie du Kaizen qui s'appelle le petit pas, c'est-à-dire voilà, on avance dans une démarche de plus en plus écologique et respectueuse, mais par petits pas, quoi. Et on prend pas comme modèle de référence
les extrémistes.
Ouais.
Moi, je me souviens au tout début, quand j'ai commencé les toilettes sèches, la phytoépuration, c'était dans les années 2005, j'étais complètement hors la loi, j'avais pas le droit de faire ça. La phytoopération, c'était un truc, c'était pas reconnu, hein. Il fallait que je fasse un bac à sable qui coûtait 8000 balles pour gérer du caca, quoi. Et quand j'ai fait de la phytoopération, c'est vrai qu'on m'a regardé avec des grands yeux. Voilà, j'étais hors la loi. Et il fallait pas que j'ai un discours d'ayatollah, en fait. Il fallait pas que j'ai un discours extrémiste en disant « Ouais, mais c'est toi qui as tort avec ta chasse d'eau, tu te rends pas compte. » Non, il faut justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, avoir le choix, donner le choix. Et expliquer, mais de manière posée, en fait. Mais même pas expliquer, d'ailleurs. Simplement que les gens se rendent compte par eux-mêmes de l'absurdité, parfois, de certains choix de vie, en fait. Balancer de l'eau potable pour gérer du caca, quand on y réfléchit, c'est complètement débile.
Ah bah oui, c'est une dépense énergétique pour l'assainissement de l'eau, tout ça, pour l'emmener aussitôt dans un bac d'épuration. Non, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
Oui, puis après, c'est d'acquérir la conscience que acheter le dernier téléphone portable, on va être satisfait une heure, une journée, peut-être une semaine, et puis très vite, on va avoir besoin d'un nouvel objet pour combler le vide, quoi. Mais ça nécessite d'avoir cette conscience-là que la consommation, finalement, n'est vraiment qu'un leurre dans ce besoin de combler notre vide intérieur actuellement, quoi.
C'est là qu'on aborde la politique.
C'est pour la transition, c'est ça.
C'est la transition.
Très bonne transition, en effet. On peut lancer la prochaine piste.
Si tout le monde reste à attendre que des mesures soient prises, on va attendre 100 ans sans qu'il y ait rien de fait.
Je pense que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte les problèmes écologiques d'aujourd'hui.
Ok, ouais. C'est intéressant. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il y a aussi une responsabilité individuelle. Alors, effectivement, les collectivités, le gouvernement doit montrer l'exemple. Il doit inciter à mieux consommer, à mieux agir, à mieux protéger la biodiversité. Mais faut pas tout attendre du gouvernement. Moi, je pense qu'il y a un moment aussi, on a son juge arbitre, hein. Chacun est capable aussi d'agir à son propre niveau, et faut y aller. C'est un peu facile tout le temps de se cacher derrière les positions des politiques pour dire, ah bah oui, mais ils font pas, moi j'y vais pas. Du coup, bah si, faut y aller, je suis désolé. On a aussi notre propre responsabilité, il faut y aller. c'est un peu facile tout le temps d'attendre. Le gouvernement a sa grosse responsabilité. Il y a le ministère de l'écologie, c'est effectivement pas un des plus gros ministères, même si le ministre de l'écologie était ministre d'État et qu'effectivement, voilà, on a bien pris conscience, c'est un bel affichage, que c'est transversal à toutes les autres missions, ok, mais il faut pas attendre tout des politiques. Je pense qu'à un moment, il faut aussi agir à titre individuel.
On doit influencer les politiques, c'est surtout ça en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Le développement des réseaux sociaux, je pense quand même, il a ce côté bénéfique. C'est que les politiques ne peuvent pas s'exonérer de ça. Ils ne peuvent pas s'exonérer de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de ce que pensent réellement les gens. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il y avait les élections, point barre. Ouais.
Mais même les élections, hein, c'est un sacré outil quand même pour se faire entendre. Hein. Aujourd'hui, à l'échelle communale ou les élections régionales, moi, dans les communes, c'est 15-20% les partis écolos. Alors après, je ne veux pas mélanger l'écologie politique et l'écologie de terrain, mais en attendant, c'est quand même des messages qui passent. Et quand j'interpelle, moi, mon maire ou mon président de Comcom, je lui dis, rappelez-vous quand même, aux dernières élections, sur votre commune, dans la Comcom, c'était tant de niveaux, ça veut dire qu'il y a une attente forte. Donc qu'est-ce que vous faites pour répondre à cette attente-là? Et ça les touche, hein. Je vois bien, ça les touche quand même.
Une des difficultés, à mon sens, avec lesquelles on sort chacun, étant d'arriver à garder une liberté au milieu de l'énorme conditionnement numérique actuel. Comme je disais tout à l'heure, là, on peut être en face d'un écran 24 heures sur 24 quasiment. On se prend en permanence des messages de conditionnement. Et un des premiers enjeux au niveau personnel, avant justement d'aborder le niveau politique, c'est d'arriver à prendre un peu de liberté par rapport à ce conditionnement-là. Mais ce sont des belles paroles et le déconditionnement n'est pas si évident. Quoi.
Bon, on est noyé de ces messages, de toute façon. Donc c'est vrai que, soit à la télé, à la radio, dans les journaux, c'est pas évident. Moi, il y a quelque chose qui me faisait réagir tout à l'heure, mais bon, ça, c'est, on va diverger, mais pas grave. C'est dans les termes utilisés. Maintenant, quand on parle de plan de licenciement, on parle de plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà. Je voulais se méditer là-dessus parce que moi, franchement, quand une société en est arrivée, un système en est arrivé à prendre les gens pour des cons à ce point-là, je pense que là, il est à l'agonie là. Mais le problème, c'est que les gens, à force d'avoir ce terme-là sous les yeux, se l'accaparent. Là, le danger, il est là.
Ça me fait juste penser au désodorant des années 80 qui avait un logo qui protégeait la couche d'ozone.
Ouais. Non, mais en fait, par la sémantique, on désacralise le massacre. En fait, c'est un peu ça, quoi. Ou les erreurs. C'est vrai que c'est assez hypocrite, complètement. Hein.
Ça n'a aucun rapport, mais c'est vrai que j'ai vu ça tout à l'heure aux infos et ça m'a un peu surpris, quoi.
Mais à l'inverse, on parlait d'endoctrinement de ces messages qui nous poussent à consommer et à acheter. C'est aussi un sacré vecteur de communication à l'inverse qu'on pourrait utiliser. Et là, je comprends pas. Au printemps, je pense à l'OFB, il y avait un discours, une petite jungle que j'ai entendu sur France Inter qui parlait de biodiversité et qui était assez bien fait, qui durait quelques secondes. Mais pourquoi on l'entend plus ce truc-là? Moi, je l'entends plus à la radio, il passe jamais à la télé. Pourquoi entre la pub pour le dernier camembert ou le dernier SUV, pourquoi on n'a pas une pub sur la sauvegarde des hirondelles? Ça marquerait les esprits, parce que là, quand même, moi, aujourd'hui, biodiversité, c'est un terme qui date de 1986, je crois, le sommet aux États-Unis. Bon, personne n'en a entendu parler jusqu'aux années 2000, pratiquement, de ce terme-là. Pourtant, il était déjà connu. Pourquoi, et aujourd'hui, on en parle un petit peu plus. Les gens, bon, maîtrisent pas tous les aboutissements de tout la diversité génétique, le fonctionnement entre les différents milieux. Mais pourquoi on martèle pas de ce discours-là aussi? Pour sensibiliser les gens, je pense que ça imprègne quand même. À la fin, ça imprègne. Le tri sélectif, au début, on a dit, oh, vous êtes fous, personne n'ira au bout de la rue mettre son tri sélectif. Aujourd'hui, quand on met sa canette à la poubelle, tu tries pas. Tu vois, il y a toujours une remarque. Et ça, c'est devenu un réflexe. Et alors, c'est un réflexe chez les jeunes, chez les vieux, chez tout le monde. Donc, je trouve qu'il y a de l'espoir, hein. Mais il faut se donner les moyens de réussir. Et je pense qu'il y a des outils, il faut utiliser la technologie pour ça. Mais il faut inverser un peu la tendance, hein, c'est sûr.
Il n'est pas inimaginable que des grands groupes industriels aient plus de budgets de communication que certains de nos ministères.
Bon, c'est même certain. Hein. C'est même certain. C'est même certain.
Après, j'ai envie de dire qu'il ne faudra pas confondre éducation et conditionnement.
Oui. Ah oui, c'est la
de comprendre réellement la valeur de nos actes, le sens de nos actes. Parce que quand tu parles de tri sélectif, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Tu prends conditionné, quoi.
Oui, oui.
Juste pour revenir un petit peu du coup sur la politique, on peut peut-être dissocier la politique au niveau national, où bon, là, il y a plein de choses qui peuvent être dites, hein, parce qu'eux même disent plein de choses, mais les réalisent pas forcément. Mais est-ce que au niveau de la politique locale, au niveau des communes, au niveau des mairies, des communautés de communes, est-ce que les élus sont un peu plus actifs qu'au niveau national? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent vraiment à terme et qui améliorent un peu, pour rester dans le terme de la biodiversité, à une échelle plus restreinte?
Je crois que oui. Moi, je crois que l'enjeu, il est là. Moi, je pense que l'enjeu, il n'est pas au niveau du gouvernement, et je pense qu'il est au niveau des collectivités. Je pense que la bonne échelle, c'est la communauté de communes. Parce que d'un point de vue écologie du paysage, d'un point de vue échelle de décision, je trouve que c'est
inversant.
C'est inversant. Voilà, mais c'est une échelle géographique et éco-géographique, je pense, qui est intéressante. Et moi, je pense que ceux qui ont le pouvoir, parce que toutes les décisions d'aménagement se font dans des documents d'urbanisme, qu'on appelle notamment les PLU, le plan local d'urbanisme, ou les PLUI, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, je crois que c'est ça. C'est là que ça se dessine. C'est là qu'on dit cette terre va être agricole, cette terre va être aménagée. Aujourd'hui, les élus, enfin le PLU, c'est un document qui existe depuis longtemps. Aujourd'hui, les élus ont tendance à reproduire les PLU de la même façon. Et ils ont du mal à les verdir. Et quand on a une association, qu'on s'investit dedans, on voit bien qu'on est un peu coincé. Parce qu'ils disent, oui, non, mais le PLU n'a pas vocation à aller plus loin que la loi. Il n'y a rien qui dit ça dans les textes. Ils peuvent très bien le faire. Il faut le faire. Mais aujourd'hui, ils vont, il y a tout le temps, oui, mais le PLU, il faut qu'il soit validé dans les 6 mois, c'est important, on n'a pas le temps, il y a la concertation, après c'est l'enquête publique. Je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet pour verdir les PLU. Et dans les PLU, on peut mettre des règles de prise en compte de la biodiversité, sur la gestion différenciée, sur l'obligation d'intégrer les espèces liées au bâti, comme les hirondelles, comme les martinets.
Les essences locales.
Mais ouais, sur la protection du bocage, on peut dans un PLU dire, le bocage sera protégé si vous jamais quelqu'un... propriétaire d'une haie veut couper un arbre, on peut mettre en place une commission bocage. Il y a une loi paysage, il y a des outils pour classer, ça s'appelle les espaces boisés classés ou la loi paysage. On peut protéger tous ces éléments-là. Et je pense que c'est important. Moi, j'ai réussi à faire mettre dans mon PLU, dans le PLU de ma commune, toutes les mares de la commune, toutes celles que j'avais inventées, il n'y en a pas toutes. Donc, il y a 200 mares qui sont associées à l'inventaire des zones humides et qui sont dans le PLU. On ne peut pas dire après, ah ben, je ne savais pas. Le PLU, c'est un document. C'est pas un document réglementaire, mais c'est un document qui présente les choses. À partir du moment où c'est dans le PLU, on peut pas dire. La carte, elle était publique, elle a été passée en enquête publique, donc c'est acté. Et je pense qu'il y a vraiment un travail très très fort de présence auprès des élus pour verdir les PLU. Je pense, franchement, moi, c'est mon cheval de bataille pour les 5 prochaines années.
Ouais, il y a un défaut de formation des élus, justement.
Ouais, puis de confort, hein, ils veulent pas faire différemment, et puis c'est faut aller vite. Moi, le problème, on a parlé plusieurs fois du temps. Un PLU, c'est un document de planification de comment va se comporter la commune sur les 10 ans, 15 ans, 20 ans, les 20 prochaines années. Pourquoi ça doit être validé en 6 mois? On n'a pas le temps. Il faut se donner plus de temps pour que ce soit un document efficace. Moi, je pense vraiment que c'est important d'agir à ce niveau-là.
Je pense que pour revenir à ta question, c'est vrai que je réponds dans le sens de Michael, c'est l'échelle communale et intercommunale qui est importante, même en termes d'éducation à l'environnement. C'est essentiellement avec les communes ou les intercommunalités qu'on travaille. Même si on a des projets avec le département, avec la région, en termes de réalisation concrète, de connaissance du terrain, de sensibilisation, c'est quand même par ce biais-là qu'on a les résultats les plus intéressants.
C'est du concret, hein, cette échelle-là. Alors que le reste, c'est de la planification. Là, c'est du concret.
On voit à travers les ABC, par exemple.
Ouais, les ABC. Ouais. Mm. Moi, j'attends. Là, le président de région s'est engagé à 0 artificialisation à partir de 2030. Bah, j'attends de voir comment ça va se faire. Mais je vois aussi que cette échéance de 2030 pousse un peu pour faire beaucoup d'aménagements en ce moment. Et là, il y a beaucoup quand même de communes, de comités de communes, où il y a beaucoup, beaucoup de grues. Mais ouais, je me dis, toi, c'est aussi un peu le revers de la médaille avec des politiques très fortes comme ça de dire zéro artificialisation. Effectivement, c'est un peu on l'a vu avec l'interdiction du Roundup, hein. On n'a jamais vendu autant que quand il a été interdit.
C'est vrai.
Les gens ont fait des réserves.
Il y en a même qui vont le chercher en Espagne.
Je suis pas totalement certain du chiffre que j'avance, mais il me semble que c'est 8000 personnes qui arrivent par an sur l'agglomération rennaise.
Ouais, c'est ça, ouais. À peu près, c'est j'ai 10 000 en tête, donc c'est ça. Ouais.
Donc on a une pression humaine à laquelle on doit faire face. Effectivement, l'échelon communal est le mieux placé pour répartir cette pression humaine de manière la moins préjudiciable à l'environnement.
Mais nous, c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus avec les aménageurs, les architectes, les aménageurs, les constructeurs, pour prendre en amont, en charge la biodiversité avant même la construction des AAC ou Et du coup, c'est vachement intéressant parce que ça permet de sensibiliser tous les acteurs, que ce soit en amont, mais que ce soit aussi pendant le chantier. Il y a des manières de gérer un chantier qui vont être moins impactantes pour la biodiversité.
Et ça éveille, hein, ça éveille tout le monde. Hein. Je vais prendre l'exemple, là, encore des hirondelles ou des martinets. Alors, c'est qu'une partie du cycle de ces espèces-là, et forcément, il faut de l'eau, il faut de la nourriture, mais rien que la nidification. Moi, j'ai bossé du coup avec un architecte aussi sur un bâtiment de ma commune, enfin, bossé en tant qu'association, on a conseillé. Franchement, le gars, il cochait, il me disait vous avez besoin de quoi? Faut en mettre combien d'hirondelles? 2, 3? J'ai dit, ouais, bah là, hein, comme ça, ouais, ça fait 4. Ouais, ok, très bien. Il me disait, mais franchement, on s'en fiche, là, on est rendu à 400 euros d'investissement, le projet, il fait 3 millions. Il dit, vous en voulez d'autres? mais on en était là. C'est rien du tout en termes d'investissement.
C'est pinaille,
il faut juste que ce soit programmé avant les travaux. Parce que c'est vrai que si le bâtiment est rénové, qu'il faut recasser pour remettre des nichoirs à martinets, je comprends, ça peut poser des problèmes d'esthétique, des problèmes techniques. Mais si c'est conçu dès le début, si c'est dans les plans, franchement, ça coûte zéro, enfin, presque rien. La commune, elle se valorise à fond là-dedans, derrière, parce qu'effectivement, et je trouve que c'est de bonne guerre, hein, elle met ça dans son journal communal, la commune prend compte la biodiversité, l'architecte, lui, il s'en fiche, il est payé pareil. Hein. Mmh. Et puis même, au contraire, c'est des références qu'il peut vendre aussi dans d'autres projets. Tout le monde, pour moi, c'est gagnant-gagnant. Mmh. Et franchement, ça, c'est rien. On parle de quelques centaines d'euros. Un nichoir, je vais pas faire de la pub pour les PO encore, mais voilà, quand on achète ça sur le catalogue des PO, un nichoir hirondelle, c'est 10 ou 15 euros, quoi. C'est rien, quoi. Mmh. 15.
Avant de conclure, voici un petit objet sonore réalisé par nos soins qui reprendra les plus belles phrases de nos témoignages sur une musique de Mayra Andrade.
Chaque être humain qui prend conscience, c'est une petite lumière, petite lumière, petite lumière.
Les arbres, c'est la vie, vie, vie.
Buspacha, bubaka, kaka, burisdangong.
Chaque espèce a le droit de vivre.
Buapokan, buspacha, bubaka, kaka, burisdangong. Buapokan, kantun chika kasangkong.
J'ai jamais trop tard, on peut toujours améliorer les choses.
Les arbres, c'est la vie, vie, vie.
L'être humain dans son évolution, il n'est pas encore sorti du stade adolescent.
Les arbres, c'est la vie, 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 vie.
Il faut laisser ça naturel et tout pousser, et laisser ça, les fleurs, les petits fleuris, tout.
Il va y avoir un sacré fromage.
C'est donc la fin de cette émission. Nous remercions les intervenants d'avoir bien voulu participer à l'émission. Nous remercions aussi les personnes que nous avons interrogées dans la rue. Et nous remercions bien évidemment nos chers auditeurs qui nous ont suivis tout au long de ces épisodes.
À la technique, Jean-Bastien Hérouf, une émission réalisée par Lise Vanderput et Nicolas Rodeuzé.
Les océans sont des poubelles et les fronts de mer sont souillés. Tchernobyl dans Ribambelle. voit naître des fœtus morts-nés. Dans 50 ans, qu'allons-nous faire de ces millions de détritus et ces déchets du nucléaire dont les pays ne veulent plus? Sous nos pieds, la terre promise, patrimoine de nos enfants, petit à petit agonise, nul ne s'en soucie. Et pourtant des espèces devenues rares sont en voie de disparition, et la laideur chante victoire sous le plastique et le béton. La terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt, où allons-nous? Dans la finance et les affaires, le pétrole est le maître mot. Il mène à tout, même à la guerre, et nul ne s'inquiète de l'eau. Où en sont la flore et la faune? Et qu'advient-il du firmament privé de la couche d'ozone, gardien de l'environnement? Sous le ciel, le sol se révolte, car l'homme trompe la nature. Quand il trafique les récoltes, il hypothèque son futur. Sous le soleil, les forêts brûlent, et l'on gave les champs d'engrais dans la boulimie majuscule du rendement et du progrès. La terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt, où allons-nous? Il est temps de prendre conscience que l'homme ne respecte rien. Il se fiche de l'existence des baleines et des dauphins. L'éléphant meurt pour son ivoire, la bête rare pour sa peau. Et dans les grandes marées noires, le mazout engle les oiseaux. La société consommatrice avance impunément ses pions, tandis que les arbres pourrissent dans les villes et leurs environs. La sécheresse se déchaîne, effaçant tout signe de vie, et certaines races humaines crèvent d'abandon et d'oubli. La terre meurt, l'homme s'en fout, oublie sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt.